particulier, Claire Lee. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, Claire Lee, qui est notre invitée aujourd'hui, est cambodgienne. Elle vit en France depuis 1980. Signe très particulier de cette femme, elle a été la prisonnière des Khmers Rouges entre 1975 et 1979, avec tout ce que ça suppose. Récemment, Claire Lee est revenue au Cambodge sur les traces d'un passé pour le moins douloureux, on le devine. Son livre s'intitule « Retour au Cambodge, le chemin de liberté d'une survivante des Khmers Rouges » aux éditions de l'Atelier. Bonjour Claire Lee.
Bonjour.
Vous venez donc d'écrire ce témoignage. C'est la troisième fois que vous allez au Cambodge.
Et c'est la troisième fois pour le livre. Et après, à la sortie du livre, je suis retournée la quatrième fois. C'est-à-dire que depuis 2002, je suis retournée une fois par an, presque.
C'est toujours aussi douloureux ?
Il y a moins de souffrance, moins de douleur, certes, mais c'est toujours difficile. Je ne suis pas très confortable psychologiquement.
Parce que vous revivez à chaque fois le cauchemar.
Ce cauchemar est comme imprégné dans mon corps et c'est le corps qui a peur presque. C'est une peur que je ne peux pas raisonner. J'ai peur, c'est tout. Voilà.
Alors, vous avez évidemment, Claire Lee, des raisons d'avoir peur. On va revenir, si vous voulez bien, sur ce passé douloureux pour comprendre les raisons de vos retours au Cambodge aujourd'hui et ce que vous éprouvez à chaque fois que vous y retournez. On salue d'ailleurs les auditeurs qui nous écoutent en ce moment même au Cambodge. Vous viviez donc tranquillement au Cambodge, vous faisiez des études.
Oui, j'enseignais la philosophie, je m'occupais de l'institut de traduction, des manuels scolaires du français en khmer, en cambodgien. Vous savez que nous avons tout copié sur la France quand même, le Cambodge, donc il faut entreprendre la traduction de tous les manuels scolaires. Et je m'occupais comme directrice technique de cet institut. C'était une vie de femme tranquille. Mon mari était directeur de banque. J'ai un fils de 3 ans à cette époque-là.
Jusqu'en avril 1975, jusqu'au 17 avril 1975, où les Khmers Rouges sont entrés dans Phnom Penh.
Oui, le 17 avril, le Cambodge va basculer. Mais toutes les régions du Cambodge ne basculent pas en même temps. C'est Phnom Penh qui a basculé le 17 avril 1975. Moi, à cette époque, je me trouvais à ma ville natale qui est Bat Thombong, une ville qui se trouve à plus de 200 km de Phnom Penh. Et parce que nous sommes allés pour fêter le Nouvel An Khmer. Vous savez, le Nouvel An Khmer, c'est toujours le 13 avril et c'est une grande fête pour chaque famille Khmer où on se retrouve. Et on a été bloqués à Bat Thombong. Voilà. Et Bat Thombong a été vidé par les Khmers Rouges du 23 au 24 avril.
Alors vous étiez prisonnière, bloquée donc à Bat Thombong avec votre famille ?
Oui, mais mon mari a été fusillé avec mon père ainsi que mes deux frères aînés. Et nous sommes partis avec ma mère et mon frère, mon fils de 3 ans. Nous sommes partis dans le but de rejoindre la frontière thaïlandaise. Mais on a été vite bloqués par les yotés. On appelle les yotés, sont des soldats, les jeunes soldats Khmer Rouges, qui ont entre 13 et 20 ans. Ce sont des jeunes, très jeunes.
20 ans,
hein. Oui. Alors, on a été bloqués, on nous a pris la voiture, on n'a plus de voiture pour continuer. Donc, on était bloqués à 60 km de la frontière thaïlandaise, dans la région de Sisophon. Et là, tout de suite, on commence à encadrer la population qui arrive des villes en ce qu'ils appellent des coopératives de travaux forcés. Voilà.
Parce que le principe des Khmers Rouges, dans l'idéologie Khmers Rouges, c'est qu'il fallait créer un homme nouveau.
Oui.
Et que, par exemple, les habitants des villes devaient aller travailler à la campagne.
L'idéologie des Khmers Rouges, il y a quand même cette idéologie que l'homme est né bon, en fait. J'allais dire presque le bon sauvage de Jean-Jacques Rousseau.
Donc c'était forcément l'homme en prise avec la nature.
L'homme en prise avec la nature est un homme bon. Et l'homme qui se trouve dans les villes, ce sont des hommes qui ont été tachés par ce qu'on appelle la société, la civilisation, qui est en plus c'est une civilisation occidentale, d'après les Khmer Rouges. Parce qu'en fait, toutes les villes asiatiques sont construites à l'image des villes en Occident. Donc il fallait bien purifier tous ces gens-là qui ont été tachés par une culture qui est une culture impure finalement, parce que cette culture-là n'est pas digne de la culture des Khmer d'Angkor Wat.
Bilan de cette politique, Claire Lee, entre 1975 et 1979.
2 millions de morts environ pour une population de 7 millions.
Alors comment avez-vous, j'allais dire vécu, mais plutôt survécu pendant 4 ans ?
Je dis presque que j'ai survécu grâce à un sentiment de colère et de haine. Vous voyez, j'ai que les Khmer Rouges, d'abord c'est, il y a ces déplacements massifs, où il n'y a aucune structure d'accueil à la campagne, et il fallait cacher notre identité. Il ne faut pas porter des lunettes parce que c'est signe d'intellectuel. Et si on nous demande comment tu t'appelles, on lui donne le nom, il nous dit c'est comme ça qu'il faut écrire ton nom. Alors il faut répondre, j'en sais rien, camarade, parce que je suis illettré. Il fallait d'abord cacher cette identité comme quelqu'un qui a touché à la culture occidentale, ça à tout prix. Si vous êtes allé à l'école, plus ou moins, vous êtes impur. Voilà.
Et donc condamné à mort.
Condamné à mort, voilà. Ou à des régimes beaucoup plus durs. Après, au bout de 2 ans, quand les Khmer Rouges ont renversé, c'est-à-dire qu'ils ont dit que le peuple qui vient des villes, ils se sont purifiés, et ce sont nos paysans à purifier, à quitter leur maison, tout ça, il y a des appels. Il les appelle en disant qu'actuellement, le gouvernement, ce qu'on appelle ça, l'ANKA. L'ANKA, ça veut dire institution. Le gouvernement l'ANKA a besoin des professeurs, des médecins, parce que maintenant vous vous êtes purifiés, donc vous pouvez venir, on vous amène en ville pour aider à reconstruire le pays.
Donc
vous...
c'était le mouvement inverse.
Oui, le mouvement
les intellectuels
inverse.
Qui avaient été transportés massivement dans la campagne, oui, revenaient, étaient appelés, oui, même plus que ça, on leur ordonnait de revenir en ville.
Oui, appelés à surveiller les paysans et ils sont appelés à revenir en ville. Mais attention.
Les paysans qui étaient qui avaient été transportés dans les villes en revanche.
Non, les paysans sont restés sur leur lieu, oui, mais ce sont des gens des villes qui doivent surveiller. Mais ceux qui ont appelé, ceux qui se sont présentés comme médecins ou professeurs, mais ils n'ont pas été amenés en ville, ils ont été massacrés. Vous voyez, c'est un piège. Parce que de toute façon, on ne peut pas faire confiance à ces gens-là qui ont côtoyé les impérialistes. Mais moi, j'ai survécu parce que à cause de ma haine.
Vous n'êtes pas tombé dans le piège.
Non, je ne suis pas tombé dans le piège parce que j'ai dit, eh bien, vous avez tué tous les miens. Le peu qui reste en moi, je ne mettrai pas à votre service. C'est une grande colère. Et je préfère rester une paysanne ignorante à la campagne.
Alors comment avez-vous vécu Claire Lee pendant ces années, dans les rizières
Les 2 premières années, c'était extrêmement difficile, parce que par exemple, je ne pouvais pas marcher pieds nus comme nos paysans. On est quand même habitué à porter des chaussures. Marcher pieds nus, au bout d'un quart d'heure, on a toujours des pieds en sang. Ça a été extrêmement pénible et j'étais enceinte de 2 mois quand ils m'ont envoyée à la rizière. Et je ne savais pas, je connaissais rien. Je ne savais même pas faire cuire le riz. Donc souvent, je mangeais du riz à peu près à moitié cuit. Et ça n'a pas duré longtemps parce que l'ANKA a décidé très vite que personne ne peut faire cuire du riz dans sa chaumière. Il fallait avoir une cantine. On va prendre le repas en commun. Ça m'a soulagée quand même. Parce que je n'ai plus à m'occuper de faire mes repas. Et ensuite, il faut se plier à cette exigence d'ANKA où on commence à travailler à 4h du matin sans savoir ce qu'on va faire de la journée. On va se mettre en rang et on vient nous dire, voilà, aujourd'hui, vous allez être terrassière ou vous allez repiquer le riz ou, bon, suivant ce que l'ANKA demande de nous ou construire des digues. Voilà. Et on travaille toute la journée, il y a un arrêt d'1 heure à peu près, environ, à midi, pour distribuer le repas. Après, elle commence à travailler jusqu'au coucher du soleil. Heureusement, le soleil se couche très vite au Cambodge.
Au mieux, parce que depuis 4 heures voilà. du matin, ouais.
Après, on rentre au village, là où nous avons notre case, j'allais dire, on va coucher. Là, après, il y a un repas du soir. Après le repas du soir, il y a des cours politiques où nous explique le marxisme, si vous voulez. Et pendant ces cours, ça c'est très dur parce qu'on a déjà travaillé toute la journée. Il faut surtout pas s'assoupir pendant ces cours, sinon on nous pose des questions et si vous ne pouvez pas répondre, c'est que vous méprisez l'encart, vous méprisez l'institution dont vous sortez et vous revenez plus.
Et vous avez tenu ce régime pendant combien de temps?
J'ai tenu, ça a été très dur les deux premières années. Parce qu'il faut d'abord que mon corps s'habitue à ce régime-là et j'étais enceinte. Après l'accouchement, je ne sais pas, le corps commence à s'habituer et je commence à connaître ce qu'il fallait faire à la rizière. Je commence à savoir repérer où c'est le trou des crapes ou le trou des serpents parce que ce sont nos compléments d'aliments, nos compléments de repas.
Oui, parce que la nourriture était évidemment
oui, on
suffisante.
Avait qu'une soupe de riz très claire, oui, c'est presque que de l'eau.
Mais comment votre enfant a-t-il été pris en charge?
Alors, il y a une grande différence entre l'aîné qui a 3 ans, quand on a quitté notre maison. Lui, il est considéré comme peuple impur, parce qu'il est né sous l'ancien régime. Et ma fille, qui est née en 75 sous le régime, est considérée comme enfant de l'État. Donc, elle est pure. Et nous, en tant que mère, nous devons échanger nos bébés pour allaiter. Nous n'avons pas le droit d'allaiter que notre bébé. Nous sommes toutes des mères des enfants de l'État. Donc, moi, j'ai souvent changé, on est obligé de changer nos bébés. Et ma fille a un régime assez plus facile que son frère. Par exemple, à côté du lieu de notre habitation, il y a ce qu'on appelle un potager d'État. Alors, il y a des tomates, des concombres. Ma fille, qui s'appelle Rata, qui ça veut dire fille de l'État d'ailleurs, elle peut aller dans ce potager pour cueillir les tomates ou le concombre pour manger pour elle. Mais son frère ne peut pas y aller, son grand frère. Mais elle, souvent, elle y va, elle mange, elle garde la moitié de tomate pour son grand frère. Et, donc, et tous les enfants doivent travailler le matin et l'après-midi sont des cours politiques.
Alors, Claire-Li, vous avez fini par sortir de cet enfer?
Oui.
En quelles circonstances?
J'allais dire grâce à l'armée vietnamienne. Vous savez que le Vietnam a
la libération, le renversement du régime.
La libération de la libération de l'armée vietnamienne que la communauté
en 1979,
non? Oui, internationale n'a pas voulu connaître. La communauté internationale regardait cela comme l'invasion du Cambodge, pas une force étrangère. Mais en fait, c'est grâce à cette invasion des Vietnamiens que j'ai été libérée.
Alors, c'est en France que vous avez commencé une nouvelle vie en 1980.
Oui.
Hein, Claire-Li. Je précise que vous n'avez pas voulu vivre à Paris. Vous avez voulu aller dans le sud de la France pour vivre loin des Cambodgiens. Pourquoi?
Pour vivre loin de la communauté Khmer. Parce que dans l'avion qui m'a transporté de Bangkok à Roissy, enfin, dans le camp de Bangkok qu'on appelle le camp de transit, où nous attendons 10 jours pour partir pour le troisième pays, j'ai croisé des anciens Khmer Rouges. Et ben, ces gens-là sont aussi des réfugiés comme nous. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas là pour attaquer qui que ce soit, mais pour moi, ça a été très dur de sortir avec ces gens-là. Et j'avais une hantise de les rencontrer et que mes enfants les rencontrent leurs enfants. Oui. Et en plus, je vis très mal que le Cambodge, je prends ça comme mon pays d'origine, m'a mis dehors. Parce que j'ai pas voulu partir tout de suite. Je voulais rentrer à Phnom Penh, reprendre mon poste de professeur. Mais seulement, ça n'est pas été possible avec l'occupation vietnamienne.
Pour quelle raison?
Parce que le gouvernement vietnamien voulait que tous les chefs de service repartent encore pour une rééducation à Hanoï. Alors moi, je viens de... Peut-être c'est une bonne chose, j'en sais rien, mais je viens d'en faire 4 ans et bon, le mot rééducation, ça m'a fait peur.
J'imagine, Claire-Lie. Donc vous avez entamé une nouvelle vie en France. Vous vous êtes convertie au catholicisme en 1983, me disiez-vous.
Oui.
C'était le résultat... Enfin, vous étiez bouddhiste.
Oui.
C'était le résultat d'une réflexion de plusieurs années, et notamment de cette épreuve entre 1975 et 1979, d'une réflexion autour de ce que vous aviez subi.
Oui, c'était aussi une révolte, surtout contre l'instrumentalisation du bouddhisme par les Khmer Rouges, en expliquant que nous autres, les victimes, nous sommes des coupables, presque. Parce que si on nous envoie à la rizière, parce que quelque part dans notre vie avant, nous avons fait des choses qu'il ne fallait pas le faire, et nous avons posé des actes mauvais. Donc ce sont ces actes mauvais qui nous poursuivent en quelque sorte, et d'expliquer que ceux qui ont été fusillés, ils le méritaient plus ou moins. Hein. Alors vous savez, comme dans tout régime, il y a toujours des collaborateurs, il y a des bons qui ont collaboré, mais ceux qui ne veulent pas collaborer avec cette idéologie ont été massacrés, bien sûr. Il y a une sorte de révolte en moi, et qui me fait partir de chercher autre part le sens de ma vie.
Alors pourquoi, Claire-Lie, avez-vous éprouvé le besoin de revenir à plusieurs reprises dans votre pays ?
Alors, je pense qu'actuellement, c'est à la mode qu'on parle beaucoup des problèmes identitaires. Donc c'est une recherche d'identité, finalement. Finalement, moi j'ai changé de pays. La France devient mon pays d'accueil. J'ai reçu la nationalité française par naturalisation. Et je suis devenue chrétienne catholique dans l'Église catholique de France. Et qu'est-ce que j'ai fait de la Khmer avant?
Qu'est devenue Claire-Lie, la cambodgienne?
Oui, quelle est devenue celle-là? Est-ce qu'elle doit se taire à tout jamais? Elle n'a plus de voix, chapitre, ou est-ce que cela continue à exister? En fait, je me suis rendu compte que la bouddhiste que j'étais continue à poser des questions à la chrétienne catholique que je suis devenue. Par exemple, elle me disait, mais tu t'es pas trompée en changeant de tradition spirituelle? Est-ce que le Dieu que tu appelles le Dieu de Jésus-Christ n'était-il pas simplement ton objet mental? Devant un tel défi, je dois répondre. Il y a en moi comme ce que j'appelle un moi divisé. Je crois que tout immigré vit cela.
Claire-Lie, vous dites qu'un jour vous retournerez sur les lieux de vos souffrances au Cambodge et que vous dormirez une nuit là-bas.
Oui, c'est pour
quelle raison ?
C'est pour essayer de surmonter cette peur qui est une peur physique en moi, parce que au Cambodge, la nuit, il faut que je laisse une lumière allumée, sinon je ne peux pas dormir, j'ai peur du noir, alors que c'est quand même pas raisonnable pour une femme de mon âge.
Pas une question d'âge.
Non, mais je crois que c'est parce que pendant le temps des Khmer Rouges, c'est toujours la nuit qu'on vient nous chercher, les intellectuels. Quand on a été dénoncé, c'est toujours la nuit qu'on disparaît. Et quand la nuit arrive, il y a donc une peur physique en moi.
Et quand vous arriverez à dormir une nuit sans lumière sur les lieux de vos souffrances, vous considérerez
que je serai guérie. Peut-être que je serai guérie. Que quelque part, j'ai dominé cette peur-là.
Merci, Claire-Lie, de nous avoir offert ce nouveau livre qui s'intitule, lui, Retour au Cambodge, le chemin de liberté d'une survivante des Khmer Rouges, un livre publié aux éditions de l'Atelier. Merci.
Merci.
C'est la fin de cette édition de Signes particuliers avec Véronique Fournier, réalisation Marc Delouvrier, technique Céline Gerber, notre adresse électronique.
signes.particulier@rfi.fr.
Signes particuliers au pluriel. Rendez-vous lundi pour une nouvelle rencontre et dans quelques secondes un nouveau journal sur RFI.